Europe Soir, le 18-20, Julien Bucher.
Le débat des grandes voix du jeudi, donc ce soir avec Michel Cotta. Bonsoir, bonsoir Michel. Claire Chartier, bonsoir Claire, rédactrice en chef débat et idées à l'Express. Et David Revaud-Dallon, bonsoir David.
Bonsoir.
Rédacteur en chef politique au journal du dimanche. Alors la grande question ce soir est de savoir si le gouvernement va fermer ou non les écoles ou prolonger les vacances. Ce qui revient à peu près au même d'ailleurs. On a une fois encore assisté ce matin, c'est vrai, une communication à géométrie variable de la part du gouvernement. Pour Gabriel Attal, c'est une option.
Tous les scénarios sont sur la table, rien n'est exclu. On arrive dans une période de vacances de février, ou sur un mois selon les trois zones, il y a les vacances de février. Et donc, il est évidemment possible de réfléchir à allonger les vacances d'un côté ou de l'autre. Mais encore une fois, notre objectif, ça reste évidemment que les enfants puissent continuer à apprendre.
Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Au même moment, sur France 2, Jean-Michel Blanquer disait ceci.
Encore faut-il démontrer que les vacances sont moins contaminantes comme période que la période scolaire. Je constate qu'au retour des vacances de la Toussaint, comme au retour des vacances de Noël, vous avez une courbe épidémique qui monte dans les 10 jours qui suivent et qui montre que c'est plutôt pendant la période extrascolaire que pendant la période scolaire que l'on s'est contaminé.
Voilà, on voudrait le faire exprès, on n'y arriverait pas, David Revaud-Dallon. Comment expliquer cette nouvelle cacophonie et qui croire surtout ?
Oui, c'est plus une cacophonie qu'une géométrie variable, effectivement. Qui croire ? Alors, dans cette affaire, chaque ministre représente les intérêts des catégories dont il a la charge, le ministre de l'économie, les entreprises, etc. Le ministre de l'éducation, c'est bien sûr les personnels et les élèves. Et Jean-Michel Blanquer, depuis le début...
Enfin, Gabriel Attal, il représente tout le monde, normalement.
Il représente tout le monde. Jean-Michel Blanquer, depuis le début, il plaide fortement pour le maintien du système scolaire ouvert, enfin, école, collège, lycée, et il a obtenu gain de cause, ce qui fait effectivement... du cas français, une spécificité. Il avait plutôt, depuis quelques semaines, l'accord du Premier ministre et du Président, mais là, on sent que le jeu se tend, le jeu se durcit, et qu'effectivement, parmi les quelques points durs qui restent à régler, à arbitrer en attendant...
Et quel point ? Et
quel point ? L'annonce, c'est parce que effectivement, est énorme, hein. C'est au premier rang des points durs, et l'école est celui qui est le point dur qui focalise le plus. Alors, vous avez raison, Gabriel Attal, Blanquer représente lui-même, enfin son ministère, Attal représente tout le monde, et donc on peut considérer que ce petit hiatus montre que le président, il a peut-être un petit peu changé d'avis par rapport à ce qu'il pensait
parce
ces dernières semaines.
Parce que c'est vrai, et c'est important de le rappeler, Michel Cotta, depuis le début, la doctrine de l'exécutif, depuis le printemps, depuis toujours, ça a été de maintenir coûte que coûte les écoles ouvertes. Et le chef de l'État l'a d'ailleurs redit lui-même à plusieurs reprises.
Oui, il est vrai que ça pose des problèmes de garde d'enfants d'abord, puis surtout de déséquilibre des enfants. C'est très bien quand ils ne sont pas en classe. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez toutes les images de gosses qui rentrent à l'école là, et qui sont tout contents d'y rentrer.
Ouais.
C'est quand même un milieu naturel pour eux. Les priver de ça, c'est vraiment les éloigner et pour longtemps leur abolir les contacts sociaux. Et puis c'est aussi pénaliser quand même quelque part les parents qui travaillent.
Et puis pas que. Alors, moi j'ai regardé juste avant de rentrer en studio les chiffres des spécialistes sur les hausses alarmantes des admissions d'enfants très jeunes pour dépression et gestes suicidaires. Des gamins qui sont admis à l'hôpital à 10 ans. Et puis la flambée aussi des maltraitances. Ça aussi c'est un sujet important. J'ai vu qu'il y avait 56% de hausse par exemple en mai dernier d'appel au 119 qui est le service de l'enfance en danger. Donc ça aussi ça doit peser dans la décision.
Et puis la contamination, le risque de contamination des enfants sur les adultes. Parce qu'on sait aussi que c'est comme ça que ça se passe, et souvent les enfants qui n'ont rien contaminent leurs parents. Ça vient d'arriver, autour de nous ça arrive partout. Donc c'est aussi une considération qu'on ne peut pas éloigner.
À ceci près, Michel, il y a une grande étude américaine qui est sortie aujourd'hui, c'est un peu un hasard, parce que nous on réfléchit à ça, mais voilà, cette grande étude américaine, on apprend justement qu'il n'y a pas de propagation rapide dans les écoles quand le port du masque est respecté, quand les distances sont respectées. C'est une analyse qui a été publiée dans le Journal of the American Medical Association. Claire Chartier.
Oui, il y a un paramètre aussi qu'il faut ajouter, c'est... Le creusement des inégalités sociales, qui est effectivement très fort. On l'a observé lors du premier confinement, et vraiment le décrochage que l'on observe aussi d'ailleurs au niveau de l'université, pour ceux qui vont à la faculté, qui ne sont pas en classe préparatoire, mais qui sont comme ça, dans ce lâcher, en fait, dans un no man's land où il n'y a pas de contact.
Oui.
Donc ça grève les chances de ceux qui sont les moins favorisés. Donc il y a ce paramètre social. Je pense qu'il y a aussi un vrai consensus dans l'opinion française pour laisser les écoles ouvertes, parce qu'effectivement, l'école, ça représente quelque chose.
Donc, et puis surtout, les parents ont vécu le premier confinement au printemps en s'occupant de leurs enfants le matin ou l'après-midi.
Bien placé pour le savoir, c'était assez infernal.
Et en travaillant aussi en télétravail jusqu'à parfois 2h du matin pour faire le boulot.
L'attachement au fait que les enfants aient quand même les connaissances requises suffisantes pour avancer dans le cursus, il y a aussi ça quand même qui joue en France.
Il y a beaucoup de paramètres. Alors, il paraît qu'il y a une autre option qui serait sur la table, qui serait de ne fermer que les collèges et les lycées, et qui serait plus acceptable et raisonnable, parce que ça éviterait les problèmes de garde d'enfants, David Revaud-Allonne.
Oui, effectivement. Alors là, on est dans enfin, c'est une question très importante, mais on est dans les réglages, le tour de vis, le micro-arbitrage. Je crois que la réflexion est à peu près sur tous les points durs qu'on évoquait tout à l'heure, aussi bien les commerces que les frontières, etc. On cherche absolument 5, 10, 15 scénarios à chaque fois. Donc celui-là, il est effectivement à l'étude, mais il pose un problème. Parce que Jean-Michel Blanquer, depuis le départ, quand il dit école, il entend école, collège, lycée, et ce, jusqu'au bac. Et d'ailleurs, on se commence à s'apercevoir ces derniers jours et ces dernières semaines qu'il aurait même fallu aller encore plus loin, puisque on voit qu'il y a une vraie, enfin que les étudiants sont en perdition, les étudiants à l'université, du moins ceux qui n'ont pas la chance d'être en classe préparatoire,
qui n'ont pas réussi le concours, tu veux dire.
Voilà. Et donc,
pas une chance.
Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette décision un peu tardive de renvoyer les élèves de première année à l'école. Mais je vois pas du tout le gouvernement prendre cette décision, puisqu'on on lui reproche déjà d'avoir scindé la jeunesse en deux. En gros, après le bac, à la majorité, vous envoyez, enfin, vous laissez les gens dans la nature de 18 à 25 ans, alors que précisément, c'est un moment extrêmement important, et tous les autres ont été sécurisés. Donc, ça m'étonnerait que cet arbitrage atterrisse sur cette proposition.
Et puis, il y a l'idée aussi de prolonger les vacances, qu'on entend de plus en plus. Oui. C'est d'ailleurs ce que disait Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Mais en réalité, prolonger les vacances, ça revient à fermer les écoles 2 semaines supplémentaires, parce que les vacances, ça ne dure que 2 semaines. Donc, si vous fermez les écoles pendant 4 semaines et que vous prolongez les vacances.
En réalité, il n'y a pas de sujet. Parce que vous confinez là pour un mois, en réalité, les élèves n'auront que 2 semaines de vacances.
Et les parents auront pendant au moins 15 jours les enfants.
Mais ça, ils ont l'habitude pendant les vacances. En réalité, ils ont l'habitude de s'en occuper. Donc c'est autre chose. Donc il y a 15 jours supplémentaires. On est d'accord. De toute façon, au stade où on en est, franchement, il n'y a que des mauvaises solutions. Moi, je voudrais que vous.
Mais celle-là est quand même très, très mauvaise.
Je ne suis pas sûre. Moi, j'en suis pas sûr.
Quand vous avez des enfants à charge, je peux vous dire que c'est pas idéal.
De toute façon, on est tous. On est tous pareils, il y a tous des enfants, des petits-enfants et tout ce qu'on veut. Mais il n'y a que des mauvaises solutions. Si vous avez une grosse contamination parmi les jeunes adultes...
Michel Cotta, il y a un protocole aujourd'hui qui est établi dans les écoles. Au-delà de 3 contaminations, on ferme une classe. Au-delà d'un peu plus, on ferme l'école.
Oui, mais c'est pour ça qu'il y en a tellement
Donc ça fonctionne.
Quand je veux dire qu'il n'y a pas de bonne solution, je veux dire qu'il y a effectivement... le choix entre, on voit ce variant qui n'était vraiment pas attendu, on parlerait différemment s'il n'y a pas le variant. On voit quand même la courbe monter à la verticale d'un côté, et de l'autre, effectivement, tous les embêtements sociaux, économiques, tout ce que ça peut...
Mais il y a quand même un élément qu'ont du mal à comprendre, pardon, je me fais un peu le porte-parole des Français, parce que je le lis et je le vois dans les sondages, mais il y a quand même un élément qu'on a du mal à comprendre. Ça fait un an maintenant que ce virus est là, et on n'est pas encore sûr à 200% du niveau de contamination dans les écoles. Il y a eu des grandes études qui ont été faites dans les supermarchés, dans les librairies, dans tout un tas de lieux. Et dans les écoles, on est infichu un an après de savoir si la contamination elle est forte, faible ou complètement absente.
Bah là, vous venez de citer une étude qui a l'air effectivement intéressante.
Une,
il me semble qu'en Asie aussi, ils n'ont jamais fermé les écoles. Donc ça prouve aussi que certainement ce n'était pas aussi ravageur qu'on le disait. Moi, ce qui me frappe dans ce débat, je vous rejoins tout à fait, Michel, c'est que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution que cette recherche du point d'équilibre, en fait. Puisque, de toute façon, là, on ne peut pas éradiquer ce virus. Donc, la stratégie des déconfinements massus à tour de bras, ça ne fonctionnerait pas. Donc, le gouvernement est contraint à chercher ce point d'équilibre, ce qui nous ramène à prendre en compte, à mon avis, quelque chose qu'on ne prend pas suffisamment en compte, qui est le temps. Parce que quand on regarde la situation, on le sait. Ça va durer encore plusieurs mois avant que la population ne soit vaccinée dans des proportions suffisantes. On sait que ça prend du temps, les livraisons de vaccins, la production, etc. Tout ça, on le sait. Et j'ai l'impression qu'on est embarqué constamment dans une forme de présentisme avec l'énumération, toutes ces doses, ces machins, ces seringues qui n'arrivent pas. Et du coup, on passe à côté de quelque chose qui me semble essentiel pour analyser ce qui nous arrive. C'est ça, ce paramètre du temps et ce calme qu'on devrait tenter de conserver dans la tempête. Mais c'est à mon avis ça.
Mais sauf que les décisions, elles impliquent la vie des gens.
Mais quand on vous est d'accord. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas presser le gouvernement de faire tout ce qu'il faut, d'activer. Mais je pense que quand même, ce qui nous serait quand même bénéfique tous collectivement, c'est de tenter effectivement de se projeter dans ce temps assez long de garder le
cap. Vous êtes d'accord pour dire que l'école est sans doute à part quand même, parce que c'est les enfants.
Mais
parce
ça, on
que
fait partie. La... Je veux dire, moi, je suis
David
pour.
Le problème, c'est que, effectivement, il y a une dimension temps. Mais là, on va bientôt fêter le premier anniversaire. Et le problème, c'est qu'à chaque vague, l'équation devient de plus en plus compliquée. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de paramètres et de plus en plus d'inconnus. Vous évoquiez le cas de l'école, qui est une de ces inconnues, le taux de contamination, le niveau. Bon, a priori, la situation n'a pas été catastrophique en France, donc on se dit que c'est pas massif, mais on ne sait pas. Autre inconnu, la progression du variant. On a des chiffres, mais on est incapable de dire dans 15 jours.
Samedi, visiblement, on en saura plus.
On en saura plus, mais ça reste encore de la spéculation. Enfin, les scénarios de reprise, les scénarios de faillite, la montée du chômage. On parlait tout à l'heure de la détresse psychologique des jeunes, des seniors, de tout le monde. C'est une espèce d'équation qui se complexifie à chaque fois. Au premier confinement, vous aviez grosso modo le sanitaire et puis un petit peu d'économique. Après, petit à petit, l'économique et social est rentré en compte. Et maintenant, on a tout ça, plus le psychologique, plus le social et plus, évidemment, une dimension extrêmement politique. Et vous parliez du temps, mais là, sur un temps court, pardonnez-moi, je vais prendre un petit peu le contre-pied de ce que vous disiez. Depuis 10 jours, là, on a plutôt le sentiment qu'on temporise, on lambine un petit peu, pardonnez-moi, au lieu de prendre des décisions qui, comme le disent tous les scientifiques, comme le prouvent toutes les études, s'il y a au moins une certitude dans cette affaire, c'est que plus on tape vite, plus on tape fort en matière de contention de l'épidémie, mieux ça marche.
Michel Cotard.
Oui, jamais aucune décision sanitaire n'a été aussi politique que celle-là. C'est-à-dire, on allait donner, tout le monde allait donner, Delfrécy, il a des données, d'ailleurs, il est chargé, au fond, de les diffuser autour de lui, tout en disant, moi, les politiques, c'est pas mon choix. Bon, le temps, là, en l'occurrence, il ne l'a plus. Il l'a jusqu'à Emmanuel Macron, là, jusqu'à samedi dernier. Alors, je suis d'accord, il faut envisager de penser à ça dans le temps, mais dans le temps, pour le coup, il y a quelque chose qui saisit tout le monde et qui est effroyable pour nous comme pour tous les Français. Pas un projet d'entreprise, pas un projet d'investissement, pas un projet de vacances. C'est quelque chose de complètement démoralisant pour toute une population.
18h45, on se retrouve dans quelques instants. C'est vrai que c'est une question qui se pose, David Revaud-Allen, pardon, je vais y arriver. Pourquoi attendre alors que visiblement, toutes les données, on les a? On vous entendra dans un instant sur ce point, tout de suite.
Europe 1. Écoutez le monde changer.